La cordée de la réussite, découvrir Paris 8, fête cette année ses 10 ans. Ce dispositif permet de tisser des liens entre des établissements du secondaire et l'enseignement supérieur. Pour revenir sur 10 ans d'une aventure de partage et d'un engagement fort pour l'émancipation d'élèves issus d'établissements relevant de l'éducation prioritaire, nous recevons Audrey Fogels et Ferruja Alouache, qui se sont succédés comme chargés de mission des cordées de la réussite à Paris 8. Elles racontent les défis, les enjeux, les difficultés surmontées et celles qui restent à dépasser.
Bonjour, je suis Audrey Fogels, maître de conférences en littérature américaine. J'enseigne à Saint-Denis depuis une vingtaine d'années. Voilà, je suis d'autre part directrice de l'UFR, LCER, LEA.
Bonjour, je suis Ferruja Alouache, maître de conférences en littérature française et francophone. Et j'ai enseigné longtemps dans ce bâtiment A au département de communication français langue étrangère.
Cette émission inaugure notre nouveau format intitulé « Rencontres ». Elle sera ponctuée d'extraits sonores enregistrés au lycée professionnel Frédéric Bartholdi, établissement voisin du nôtre, rue de la Liberté à Saint-Denis. Nous y avons suivi Ferruja Alouache à la rencontre d'enseignantes et d'élèves en CAP et Bac Pro, couture et maroquinerie, pour tisser des liens avec ses voisins que la communauté universitaire connaît mal. Mais pour commencer, nous allons écouter Audrey et Ferruja nous expliquer comment est né ce projet à Paris 8 et comment elles s'y sont investies.
J'ai découvert le projet des Cordées de la Réussite grâce à un collègue qui n'est plus ici, qui s'appelle Boris Bov, et qui avait monté ce projet à la demande d'une mandature précédente à Paris 8. Et les Cordées de la Réussite, en fait, c'est un moyen de fluidifier le rapport entre le secondaire et le supérieur. Donc ça, c'est le premier objectif. Et puis aussi, l'autre objectif, c'était de démystifier les représentations qui sont liées au supérieur. Et tout de suite, quand Boris m'a parlé du projet, à l'époque, j'étais directrice du département d'anglais, j'ai trouvé que le projet était très enthousiasmant parce que, notamment en Seine-Saint-Denis, il y avait beaucoup de choses à faire sur à la fois la simplification, la fluidification de ce parcours secondaire supérieur, et puis beaucoup de choses à faire sur la démystification de l'université, notamment parce que on avait appris que nos collègues des classes prépa venaient faire un travail important dans les lycées du secteur et qu'il nous paraissait important que Paris 8 soit présent sur ce secteur.
Donc si bien que moi, quand j'ai été recrutée maître de conférence en littérature en 2017, eh bien, j'ai succédé à Audrey Fogels, donc qui avait assuré, je pense, un mandat cordée de la réussite. Donc, j'ai pris le relais. C'est vrai qu'il y a cette idée de démystifier. Je crois qu'il y a même une autre piste, à savoir que certains établissements très, très proches de la fac ne savent pas que l'Université Paris 8 existe. Et donc, par exemple, le Collège Barbara, qui est à 800 mètres, voilà. Donc, c'est effectivement faire franchir les murs de l'université aux élèves du secondaire. Alors, quand j'ai pris le relais, Audrey coordonnait 14 établissements, 14 lycées. Puis, progressivement, on nous a incités à intégrer les élèves de collège, ce que nous avions fait aussi. Et aujourd'hui, notre cordée à découvrir Paris 8 travaille avec 26 établissements, 15 lycées dont 2 professionnels et 11 collèges de la Seine-Saint-Denis essentiellement, mais quand même avec un lycée à Paris autogéré et 2 à Champigny et Chennevières-sur-Marne. On a encore des demandes aussi parce que ça commence un petit peu à être beaucoup plus soutenu financièrement et en plus médiatisé. Donc Paris 8, je pense, que peut être assez fier d'avoir eu Boris Bov, Audrey Fogels, et puis moi je reprends le flambeau, quoi.
On va passer ça, là. Oui, on va faire une expo à Paris 8 pour vous. Hein. Vous allez venir avec toutes vos belles œuvres. Je veux absolument que les gens de Paris 8 voient les œuvres que vous faites. Ça
Alors là, on va mettre celui-là.
Au début, les trois missions des cordées au début, qui étaient à la fois d'organiser des conférences à Paris 8. Donc l'idée, c'était de faire venir des étudiants, enfin des futurs étudiants, des élèves du secondaire à Paris 8 pour qu'ils découvrent l'université et qu'ils puissent se projeter. Il y a eu un deuxième moment dans ce lien étudiant, futur étudiant et lycéen, qui était de faire aller des enseignants de Paris 8 vers les lycées. Donc il y a vraiment eu un aller-retour entre ces lieux, le secondaire et le supérieur, qui était à la fois intellectuel, puisqu'il s'agissait aussi de répondre à des demandes très précises de collègues dans les lycées autour de thématiques du bac, et les collègues du supérieur intervenaient sur ces thématiques-là. Ensuite, il y a eu un deuxième volet à cette action qui a été les tuteurs. Et vraiment, de repérer dans nos salles de classe, dans le supérieur, à Paris 8, des tuteurs qui pourraient être des ambassadeurs de Paris 8. Et alors, ça a été très intéressant parce que ces ambassadeurs, en réalité, étaient des étudiants qui, eux-mêmes, ont beaucoup appris en devenant ambassadeurs pour Paris 8 et ont beaucoup apporté au lycée. J'ai en tête un de nos étudiants qui a suivi toute sa scolarité à Paris 8 et qui intervenait à Sarcelles, je crois, me souvenir, Jean-Jacques Rousseau, et ensuite a été embauché sur un contrat autre parce que voilà, les choses s'étaient tellement bien passées. Et puis, évidemment, avec, et pour nous, hein, beaucoup d'étudiants de Jean-Jacques Rousseau qui viennent et qui suivent des études à Paris 8. Voilà, ça, les deux gros dossiers qui sont effectivement, enfin, ou les deux grands axes qui sont à la fois un accueil de groupe et plus quelque chose qui autour des groupes, et puis autour des tuteurs. Et lorsqu'on accueille des groupes, hein, un nombre d'activités qui allaient de conférences organisées à la rencontre de responsables de formation à le suivi d'une classe. Enfin, il y avait voilà, une multitude de choses qui avaient été mises en place.
Alors, pour compléter peut-être, donc effectivement, fac à l'essai, donc on a dans les cordées plusieurs étages, plusieurs niveaux, dont ceux dont a parlé Audrey. Donc, c'est-à-dire que les élèves viennent, si possible, on réalise un maximum d'activités à Paris 8, notamment fac à l'essai. Donc, ils viennent. Des petits groupes peuvent intégrer des cours avec des L1 sur un créneau à peu près d'une heure et demie. Ça a été fait en langue, par exemple, ça a beaucoup fonctionné. On peut faire venir les élèves, les classes, pour réaliser des micro-trottoirs dans l'université, c'est-à-dire que par petits groupes toujours, ils vont au contact d'étudiants de Paris 8, leur demandant d'où ils viennent, donc la provenance géographique, la provenance aussi, tout va avec, quoi, historique, ça peut être... Et donc les élèves posant des questions sur la provenance, les études à Paris 8, le choix de l'université, ça permet de, comment dire, tout à l'heure Audrey parlait de fluidifier, là c'est vraiment désengorger, je ne sais pas, en tout cas rompre avec l'idée que Paris 8, c'est une fac voilà, enclavée dans une zone pas géniale, parce que les élèves au contact des étudiants étrangers qui ont choisi Paris 8 comme beaucoup d'Erasmus, c'est un choix politique, c'est-à-dire c'est une fac de gauche, c'est une fac engagée, c'est une fac qui a des très bons départements en cinéma, en art, en philosophie, c'est une université qui a une renommée internationale. Ce sont les étrangers qui enseignent ça aux élèves de la Seine-Saint-Denis. Donc les élèves de la Seine-Saint-Denis, ben, ils découvrent qu'ils ont un patrimoine absolument magnifique, et ça, c'est important. Et donc, et en plus de cela, ils remarquent que les étudiants parlent plusieurs langues, viennent du monde entier. Nous avons le monde entier à Paris 8. Donc il y a ces micro-trottoirs. J'ai aussi initié des étudiants au jeu de piste dans la BU, c'est-à-dire que je les forme à justement se former, et comme tu disais très bien Audrey, c'est-à-dire qu'en fait, tout en apprenant à apprendre aux élèves, eux-mêmes apprennent et soit consolident des connaissances, soit développent d'autres compétences, et très souvent, ils reviennent l'année d'après pour continuer le tutorat. Donc, formation dans la BU, à la fois je les forme pour qu'ils puissent eux-mêmes former les élèves à faire des jeux de piste pour découvrir la fac sous un angle différent que la visite guidée toute classique, et qui peut être aussi ennuyeuse parce que voilà, on vous montre des rayons, des étages, des couleurs, alors que là ils découvrent par eux-mêmes avec ces jeux qui vont croiser le transdisciplinaire, les disciplines autour d'un thème comme Oedipe, Narcisse, l'image de soi. Donc toujours penser en fonction des programmes des lycées, toujours en fonction des demandes émanant des collègues du secondaire. Voilà, Audrey aussi a parlé donc du tutorat, donc les collègues des différentes disciplines engagés aussi, même si c'est engagement personnel parce qu'ils ne touchent rien du tout pour cela. Donc, ils recrutent des étudiants de L3 Moi, de temps en temps, je craque un peu pour les L2 parce que je me dis qu'ils peuvent être très autonomes. Et c'est exactement ce qu'on cherche. Donc, on recrute L3 master. Et la nouveauté de ces cordées maintenant, c'est qu'on a demandé à ce qu'ils soient payés parce que la crise du Covid, etc., a mis sur le carreau beaucoup d'étudiants qui ont perdu leur job. Et par exemple, durant le Covid, certains se sont déplacés, d'autres ont fait du tutorat en distanciel. Ils ont tous été payés. Je crois qu'on a dépensé 850 heures de tutorat, soit 18 000 euros. Et c'est vrai qu'on est passé aussi à une enveloppe beaucoup plus importante. On nous a soutenus. Et là, par exemple, cette année, pour les 26 établissements, il y en a quand même quelques-unes, Audrey, qui dorment, n'est-ce pas ? Il y a des lycées qui ne sont pas très, très actifs, mais l'ensemble reste très, très actif. Et là, par exemple, cette année, on a reçu une dotation de 32 000 euros, donc dotation rectorat, région, la région et la préfecture. Et ça permet effectivement de payer les tuteurs, de payer les actions dans l'établissement. Et donc, toujours dans cette fac à l'essai, donc conférence plénière, comme l'a dit Audrey, venir pour les micro-trottoirs, etc. Ils peuvent déjeuner au restaurant universitaire. Donc, ils côtoient la communauté. Et les classes qui sont venues en septembre, octobre, c'est-à-dire avant les vacances de Noël, les élèves, justement, ça leur permet de se projeter, de se dire, ça existe, j'ai rencontré, j'ai vu, j'ai découvert. Là, maintenant, la nouveauté, c'est quand Audrey était là, c'était bac moins 3, bac plus 3. Maintenant, c'est bac moins 5, voire bac plus 5.
Il y a la fac et il y a aussi, par exemple, trouver les tutrices ou les tuteurs qui vont venir au second semestre pour les aider à mieux rédiger leur rapport de stage. Oui, là, j'ai trouvé une, mais j'ai trouvé une L3. J'ai peur qu'elle soit un peu jeune pour les terminales.
Le rôle des tuteurs est fondamental, car c'est aussi dans ces rencontres entre élèves et étudiants que les liens se nouent et que les parcours se transforment. Choix d'études, choix professionnels. Comment Audrey et Ferruja ont-elles choisi les tuteurs étudiants qui ont participé au Cordée de la Réussite? Et comment les incitent-elles à s'engager auprès des publics du secondaire? Nos invités nous l'ont expliqué et sont revenus sur le rôle essentiel des équipes du SCIO-IP, Service commun universitaire d'information, d'orientation et d'insertion professionnelle de Paris 8, très investi aux côtés des chargés de mission.
À l'UFR LLCE, donc l'UFR de langue, il y a beaucoup d'étudiants qui se destinent à être enseignants. Donc eux, ils le voient comme une opportunité. Donc c'est vrai qu'on a moins de mal à les convaincre, même si le profil de nos étudiants est parfois fragile. Donc il faut être sûr que les étudiants qu'on va envoyer vont être en mesure à la fois d'apprendre des choses pour eux-mêmes, mais aussi d'aider les étudiants de terminale, de seconde, de première, qu'ils vont accompagner. Moi j'ai le souvenir d'étudiants qui venaient me revoir en me disant « Mais madame, c'est super difficile d'être prof parce qu'ils étaient envoyés en lycée, les enseignants du secondaire les accueillaient à bras ouverts parce que souvent c'était important d'avoir des étudiants auprès des élèves de lycée, première et terminale. Et certains se voyaient confier des mini-groupes où il fallait préparer le bac. Et donc voilà, ils revenaient souvent vers les départements, vers leurs enseignants, leur disant comment est-ce que je fais pour préparer un cours. Donc un étudiant, il faut réussir à identifier un étudiant qui est relativement solide, un étudiant qui est prêt à s'engager. Parce que c'est sur du long terme. Mais heureusement, nos salles de cours sont pleines d'étudiants qui ont ce profil-là. Et donc, en fait, en général, ce n'est pas très, très compliqué de les recruter. Ce qui est plus difficile, et ça, je m'en réjouis, ce que Ferruja souligne, c'est que c'est désormais rémunéré. Nos étudiants ont besoin de travailler. Et donc, jusqu'à présent, c'était une rémunération via des ECTS. Donc, ça reste aussi une possibilité. Et donc, ça, je pense que c'est vraiment... Ça correspond vraiment à un engagement qui est très important. Mais c'est important aussi qu'il y ait une rémunération en monnaie sonnante et trébuchante. Parce que, voilà, c'est une réalité que nos étudiants vivent au quotidien.
Les étudiants de licence ont un stage à réaliser entre 50 et 60 heures à peu près en fonction des départements. En général, en L3, il y a des départements, ça peut être aussi en L2. Donc, effectivement, on leur trouve un établissement avec lequel nous travaillons. Et donc, c'est tout bénef pour l'étudiant parce qu'il veut devenir enseignant, etc. Ça lui permet d'avoir une idée d'eux. Ça lui permet aussi de développer la pédagogie, puisque nous sommes une université quand même qui reste expérimentale de ce point de vue. Et effectivement, pour les engager à faire beaucoup plus que les heures de stage, on leur dit vous êtes rémunérés, et là effectivement ils s'engagent grosso modo à l'année, donc les deux semestres, et c'est vraiment effectivement gagnant pour les étudiants qui se forment, qui sont sur le terrain, qui se frottent à la réalité, et en même temps c'est gagnant aussi pour les élèves d'être en petit groupe de 3-4 avec un étudiant et qu'il y ait des échanges entre pairs, P-A-I-R-S. Pour moi, c'est un socle fort dans les cordées. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est tutorat, orientation. Et c'est vrai que là, les rangs étant beaucoup plus gros au niveau des demandes, des élèves, etc. Donc là, il faut vraiment qu'on repense notre façon de former les tuteurs, parce que les collègues de langue et les collègues référents de Paris 8, comme je le disais tout à l'heure, ils ne sont pas rémunérés, ne serait-ce que d'une enveloppe, je sais pas, je vais dire une bêtise, d'une vingtaine d'heures, par exemple. Ils suivent l'étudiant, ils discutent avec l'étudiant, ils corrigent le rapport de stage de l'étudiant, ils le notent, bon, voilà. Bref, il y a tout ça qui fait que c'est un peu lourd. Et c'est vrai que moi, je me retrouve, effectivement, par exemple, à répondre à des questions. Madame, je suis avec une sixième SECPA, par exemple, des élèves de SECPA, qui ne savent pas ce que c'est qu'un triangle ou les figures de géométrie, par exemple. Eh bien, il faut quand même bien consacrer un peu de temps à ce tuteur de mathématiques pour lui dire, bah là, qu'est-ce que tu fais concrètement pour que des gamins de 6e SECPA, ils ne savent pas ce que c'est que la 6e SECPA. Donc on découvre aussi ces choses-là. Un étudiant qui a un parcours sans faute et qui est prêt à aller à Henri Barbus, à la Courtille, par exemple, à Elzeau-Triolet, pas loin de la fac, ben il est un peu surpris de voir que des gamins ne sont pas comme lui, peut-être a été en tant qu'élève, modèle, sérieux, etc. Donc ça, c'est des choses à repenser et nous sommes en train de les repenser avec les collègues du SIO, parce que là, on compte vraiment sur le SIO pour former tuteur ambassadeur, comme tu disais, monitorat, tutorat et un axe rouge solide de l'accordé, le tutorat.
Oui, je voudrais rajouter que les équipes du SIO ont été vraiment extraordinaires pendant, en tout cas, toute ma mandature et ont vraiment suivi à la fois d'un point de vue matériel, parce que ce dont on ne parle pas non plus, c'est aussi tous les dossiers très lourds administratifs et financiers à remplir. Et en tout cas, là, j'ai eu en tout cas une aide très, très précieuse des collègues du SIO. Voilà, ça, c'est, je tenais à le dire. Et effectivement, et sur la formation, à la fin de ma mission, on avait mis en place avec le SIO qui s'était lui-même tourné vers une entreprise qui faisait ça, des formations justement de tuteurs, et on se disait que c'était vraiment important de pérenniser cela pour que les tuteurs qui s'engagent en fait en retirent aussi à Paris 8, que ça soit pas juste un travail, mais que ça soit un travail dans lequel on s'engage et au terme duquel on retire des éléments, enfin de l'apprentissage pour soi-même aussi. Donc ça fait partie de cette logique là mais voilà, je rebondissais sur ce que tu disais, Ferrugia, sur le SIO, qui est un maillon très, très important de ce dispositif. Mmh. Le SIO pourrait intervenir sur des questions d'orientation, puisque c'est ça, les questions qui se posent, en fait. Et ce que Ferrugia dit parfaitement et très clairement, c'est que se côtoyer des étudiants permet d'affiner son propre projet et de le repenser, de l'enrichir. Et beaucoup d'étudiants tout à coup, je ne me rappelle plus, mais dans un de mes rapports, j'avais inclus beaucoup de verbatim, beaucoup d'étudiants qui se disaient finalement, ah bah tiens, mais en fait la fac, moi aussi je pourrais y aller. Et donc de voir des pairs et qui parfois sont différents, mais parfois pas complètement, qui ouvrent des possibles pour des étudiants c'est plutôt des projets d'études à ce niveau-là. Je crois que j'avais entendu le SIO parler comme ça, c'est un projet d'études pour les premières années et c'est ensuite un projet professionnel.
Audrey Fogels et Ferrugia Alouache sont revenus sur les liens qui se tissent entre les enseignants du secondaire et les équipes de Paris 8 grâce aux cordées.
Il y a une demande très forte émanant des collègues du secondaire qui attendent beaucoup des collègues de Paris 8. Ils attendent surtout que les collègues de Paris 8, par exemple, comme disait tout à l'heure Audrey, qu'ils interviennent une heure, une fois, deux fois, trois fois dans leur classe autour d'un sujet en lien avec les programmes. Ou bien ils attendent beaucoup parce que les programmes étant un turnover, ça change tout le temps. Ils sont parfois désemparés parce qu'ils ne savent pas comment préparer une classe avec un objectif précis. Un exemple, les bac pro grand oral. Les classes de troisième grand oral, oral d'un chef-d'œuvre. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Voilà. Et donc, ils ont besoin de nous, par exemple, compétences en théâtre, dramatiser un texte, ou bien dire la diction, etc. Donc, éloquence, etc. Donc, ils ont besoin des collègues de Paris 8. Et je crois que nous, à Paris 8, nos collègues, les collègues référents des différents départements, restent sensibles à la question et, en général, ils répondent bien à leurs demandes, puisque, justement, ils communiquent entre eux. Ça passe par moi, mais dès que je mets les gens en contact, puisqu'Audrey a fait ça avant, donc après, ça fonctionne très bien.
Oui, peut-être que cet aller-retour, effectivement, je pense qu'il est doublement enrichissant. Il est enrichissant pour le collègue du supérieur qui voit tout à coup sa pratique pédagogique éclairée par des demandes très spécifiques et avec lesquelles il doit ou il peut renouer parce qu'il les a parfois oubliées. Donc c'est vrai que les collègues du secondaire nous interpellent sur des problématiques propres au secondaire. On avait organisé à l'UFR pas exactement dans les cordées, mais en tout cas des assises pédagogiques. Et on avait invité une de nos collègues du secondaire, qui fait d'ailleurs partie des Cordées de la Réussite, Linda Etouchen, une ancienne étudiante de Paris 8, pour qu'elle nous explique, voilà ce qu'on fait en cours de lycée avec les étudiants qui vous arrivent en L1. Et donc, soyez vigilants sur ce que vous leur demandez. En retour, comme le dit Ferroudia, c'est vraiment les collègues du secondaire sont très en demande de problématiques particulières et ciblées, qu'on a de la chance de pouvoir travailler dans le supérieur. Et là, j'étais très surprise, j'ai rencontré en Seine-Saint-Denis beaucoup d'enseignants qui avait des doctorats, des thèses, qui n'avait pas trouvé de poste. Et donc, en fait, la qualité aussi de l'enseignement en Seine-Saint-Denis, il est vraiment très, très, très important. Elle est très grande, cette qualité, notamment dans certains établissements où les collègues décident de rester pour s'investir pleinement dans la réussite de leurs étudiants. Et je crois que les lycées avec lesquels on est en partenariat font partie de ces lycées-là. Mmh. Et donc, c'est quelque chose de très réjouissant.
Et moi, si je vous disais ce que je faisais, vous me diriez, madame, on ne veut plus vous voir, alors je ne vous dis pas.
Si, madame, vous faites quoi, madame?
Je suis prof de français.
Oh, mais non.
Dans quelle langue parlons-nous, s'il vous plaît?
Nous parlons français.
Mais si. Mais quoi?
C'est pas un vrai français.
Tu parles de français?
C'est pas un vrai français.
Si, on parle de français.
Eh ben alors, mademoiselle.
Le français pour vous?
Ben oui, mais là, on est en train de se parler, on se comprend très bien. À un moment donné, on se relâche avec les copains, copines. Mais moi aussi, je me relâche des fois. Je veux dire à Alice, bah, wesh Alice, on y va, quoi, c'est bon. Et ben, je vais lui dire, c'est pas grave. Mais à un moment donné, c'est vrai que si vous accompagnez votre enfant à l'école, ben, c'est important qu'il se dise, maman, elle parle bien le français avec la prof. Ça, c'est important parce que la langue, c'est discriminant. Ben oui.
Les cordées permettent aussi l'organisation de conférences où les enseignants du secondaire viennent avec leurs élèves. Une occasion de découvrir l'université pour les lycéens, mais aussi des enseignements qui n'existent pas dans le secondaire.
Audrey avait parlé des conférences plénières dans l'amphi X, par exemple en philosophie, en espagnol, sur Almodovar. Les collègues repartent heureux. 2 heures dans l'amphi, le collègue parle de sa discipline, comment il est devenu professeur, comment il est devenu, alors je vais citer des noms, Pascal Thibaudot, comment il est devenu Pascal Thibaudot, comment est devenu Éric Le Serre, etc., etc. Conférence béton, génial sur un sujet, et puis discussion avec les élèves, ça peut parfois aller très loin, ça peut arriver aussi à des tensions, les collègues sont contents, les élèves sont contents, et les profs, quand ils repartent avec leur classe, la dernière fois, ils m'avaient carrément demandé si Éric Le Serre, par exemple, pouvait leur donner sa conférence en philosophie, puisque c'était autour d'Auschwitz et un philosophe allemand. Voilà, repenser Auschwitz avec Anders. Ils étaient, soufflés, parce que justement, les élèves étaient là, de différents établissements, ça communiquait, etc. Vraiment, et ça, c'est très, très, très demandé. Et là, ils ont hâte de revenir au mois de novembre là, pour justement ces conférences. En fonction des demandes des collègues, grosso modo, on aimerait bien en philo, en espagnol, le racisme aux États-Unis avec, par exemple, Pauline Perrette, par exemple, le métissage au Brésil. Donc, j'ai vu les conférences que tu avais organisées avant. Donc, métissage au Brésil, etc., etc. Donc, j'ai ça dans la tête. Donc, par exemple, les collègues me disent, en philo, on en veut tout le temps, tout le temps, tout le temps. En sciences, on en veut parce que ça ouvre les perspectives pour les élèves. Donc là, normalement, Ben Ali Chérif va en faire une sur à quoi sert la science. Donc, comme ça, ça peut concerner des secondes, des premières, des terminales. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la science, etc. Et en fait, donc, demandes émanant des collègues du secondaire en fonction des programmes. Puis nous, on diffuse autour de tout le monde, s'il vous plaît, qui pourrait faire une conférence. Et parfois, par exemple, sciences du langage, personne ne fait de sciences du langage au lycée. Donc il y a des disciplines qu'on découvre. Psycho, sciences du langage, théâtre.
Non. Ici, ça continue plus. Et là, il y a une fin. Donc une pince a une fin. Le pli est à l'infini. Le pli, je plie juste au niveau de la taille, là où j'ai besoin de réduire. Le volume reste quand même dans tout le corps, alors que la pince, à un moment, la pince, elle s'arrête. D'accord ? Tout le monde a vu la différence ?
Les cordées en 10 ans, ben, je ne sais pas. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons. Toutes les réunions qu'on a pu avoir avec l'inspecteur d'académie, les inspecteurs référents, un inspecteur et une inspectrice, sont très contents de Paris 8 parce que nous avons intégré les collégiens avant qu'on nous annonce justement cette nouvelle mesure. Alors bien entendu, les cordées ont une enveloppe très importante et on n'a pas cessé de nous le rappeler. 10 millions d'euros injectés pour intégrer les lycées, plus de lycées pro. Donc vraiment inciter, encourager les élèves à aller à la fac, à franchir le seuil de l'université, les portes de l'université. Et je crois que là-dessus, on peut être relativement content de nous, parce que nous les accueillons. Nous accueillons déjà, lorsque les élèves ne savent pas où aller, mal orientés, parce que Parcoursup, c'est plus des difficultés, je crois, plutôt que des choses... plutôt que la résolution, la résorption de problèmes. Donc ils viennent chez nous, par exemple, par défaut, dans une filière qu'ils n'ont pas choisie. Eh bien, d'une certaine manière, les cordées répondent déjà à cela en amont. C'est-à-dire qu'en fait, en allant dans les lycées, en accueillant les lycées, en permettant des rencontres supérieures, secondaires, là, on va essayer de programmer une réunion secondaire. Déjà, en faisant ça, déjà, il y a un premier palier de franchi et ça permet aux élèves de ne pas trop se lancer dans de fausses pistes en se disant, tiens, je vais faire droit là, alors que au départ, quand ils arrivent en droit, par exemple, eh bien, ce n'était pas du tout ce qu'il fallait. Donc nous, déjà, un petit peu en amont, on est un peu aux premières loges et ça, je crois qu'on est assez contents. Mmh. Et les collègues sont très investis à Paris 8. Ça, vraiment, je profite de ce micro, de ce jour, pour leur dire merci. Merci aux collègues de mathématiques, aux collègues de langue. Vraiment, je suis très, très touchée parce que dès qu'ils ont des étudiants prêts, collègues d'histoire, dès qu'ils ont des étudiants prêts, hop, je reçois un mail, je voudrais participer à l'accordée, je voudrais faire plus que mon stage. Vraiment. Et en fait, je crois qu'il y a une espèce d'élan solidaire, j'aime pas trop ce mot-là, mais il y a vraiment une espèce d'élan qui est touchant. À partir du moment où les étudiants savent que ça existe, à partir du moment où on visualise. Parce que quand ils ne savent pas, ils ne savent pas ce que c'est. Quoi. Voilà. Mais quand on visualise un petit peu, quand un enseignant fait le relais, je crois qu'après le relais, il se poursuit un petit peu intergénérationnel, enseignant-chercheur, étudiant-élève.
Pour aller dans ton sens, Feroudia, je sais qu'il y a un moment, je m'étais penchée sur les statistiques des étudiants et leur provenance et voir quel était l'impact très chiffré de notre action. Et que ce que, à l'époque, en tout cas, on m'avait dit, c'est que peut-être que les étudiants qui venaient des lycées que nous ciblions n'étaient pas forcément des lycées qui venaient au premier choix. C'est-à-dire que peut-être que c'était Paris 8 n'était pas leur premier choix sur Parcoursup, mais ce sont des étudiants qui, lorsqu'ils décidaient de se réorienter, lorsqu'ils décidaient de se donner une deuxième chance, choisissaient Paris 8, en tout cas on le voyait dans les statistiques, et s'y épanouissaient et restaient. Donc ça, je trouve que c'était intéressant, c'est-à-dire que c'est peut-être pas parce qu'effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, eh bien Paris 8 charrie aussi des représentations, et donc peut-être que pour les étudiants de Sainte-Saint-Denis, dont l'objectif premier est peut-être de quitter la Sainte-Saint-Denis, eh bien Paris 8 devient un lieu où on peut revenir, se trouver et construire un parcours de réussite, et c'est ce que les statistiques ont montré. Donc ça, j'ai trouvé que c'était assez réjouissant, même très réjouissant. Et j'irai dans ton sens. Effectivement, les collègues, en fait, et je suis ravie que Ferrugia soit à la tête des cordées aujourd'hui. Je pense qu'elle fait un superbe travail de communication, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui œuvrent au quotidien. Mais à l'université, c'est ça. On a de nombreux collègues qui sont aux manettes, qui travaillent peut-être de manière invisible et qui finalement font que les choses avancent, font que les choses fonctionnent. Et moi, j'ai le souvenir de réunions où il y avait les enseignants d'histoire, de théâtre, d'anglais, d'espagnol, de géographie. Et c'était très réjouissant. Moi, je pourrais ajouter en tout cas que c'est une mission que j'ai acceptée après avoir été référente cordée pour mon propre département, qui m'a énormément plu, parce que je m'intéresse beaucoup à la réussite de nos étudiants, mais comme de très nombreux enseignants dans cette université. Et qu'il me semble que l'articulation secondaire supérieure, alors Ferrugia nous parle de moins 5, moins 6, un bac moins 5. Moi, c'est vrai que j'étais sur du moins 3, me paraît vraiment très importante, notamment avec Parcoursup, avec tous les enjeux d'orientation aujourd'hui qui rendent les choses très peu lisibles pour les étudiants. Donc je pense que c'est un très très beau projet. Et en parlant, ça me donne envie d'y revenir.
Je te laisse, ma chère Audrey, avec plaisir. Je trouve que là où ça fait sens, c'est que, je ne suis pas du tout dans le genre, je n'aime pas du tout de dire avant c'était mieux, etc. Mais notre public est là, beaucoup changé, et Noël 1, à Paris 8, en tout cas, puisque je ne connais d'université que Paris 8, où j'enseigne depuis 2010, d'abord en tant que détachée du secondaire, donc au département de comme FLE, puisque je donnais des cours de FLE aux étudiants étrangers non francophones, et notamment les Erasmus, et des cours de remédiation aux étudiants francophones, et cours de remédiation, c'est-à-dire de compétences culturelles, orales, etc., etc. Et je crois que ça fait sens dans le sens où, dans la mesure où, en fait, nos L1, pour lutter contre le décrochage, l'abandon, donc parce que les étudiants, les élèves, les L1 ont été mal orientés, ou parce que Parcoursup ne leur a pas proposé la fac, la discipline choisie, je crois que ça fait sens dans la mesure où il y a quand même de nombreux départements qui ont mis en place un cours de L1, ce que nous faisons en histoire, par exemple, en langue. Je parle de ce que je connais un petit peu. Donc, par exemple, des cours de méthodologie pour ne pas que l'étudiant décroche, mais que, justement, il valide un max de cours, qu'il se dise je capitalise ce que j'apprends alors que ce n'était pas la discipline choisie, pour que je me réoriente. Alors là aussi, le travail que nous faisons dans le cadre, par exemple, donc des M2E, mm-hmm. par exemple, avec le SCIO. Donc, qu'est-ce que je fais pour que, un, je valide, je fasse valoir mes compétences et ensuite que je me réoriente. Et je crois que ce public-là, c'est celui, pas tout le temps, c'est vrai ce que dit Audrey, hein, on peut travailler avec les enseignants de la Seine-Saint-Denis et on peut ne pas forcément avoir certaines classes qui auront participé, etc. Mais en tout cas, le public qu'on rencontre dans le secondaire, c'est un peu le public que nous avons en L1, c'est-à-dire avec ses fragilités, ses forces, ses faiblesses. Je vais juste donner un petit exemple. Le lycée autogéré de Paris, c'est des élèves en général qui ont décroché, qui se rendent là-bas. Donc, ils viennent à peu près de partout. Ils se gèrent. Ils se gèrent. Je n'allais pas dire... Voilà, il n'y a pas de surveillant, il n'y a rien. Et quand ils viennent à Paris 8 et qu'ils sont mordus par Paris 8, eh ben, par exemple, il y en a une qui m'a écrit « Madame Allois, je veux venir à Paris 8 pour faire art. » Et la prof était vraiment bluffée parce qu'elle me dit « Voilà, tu sais, Ferrugia, on est un lycée où les élèves se gèrent, c'est pas forcément évident, donc ils sont toujours en auto, et quand ils viennent pour les conférences, bah, les élèves viennent tout seuls, ils peuvent venir, ils peuvent ne pas venir, et on a des élèves du lycée autogéré qui sont en art et qui sont ultra autonomes. Et ça, c'est très intéressant. Donc il y a ce lien, effectivement, enfin, je crois qu'il y a du lien, peut-être sans qu'on s'en rende compte, entre ce que nous faisons dans le cadre des cordées et des élèves qu'on accueille en L1, donc dans les différentes disciplines. Et donc, je crois qu'il nous oblige. Moi, les élèves de collège m'ont appris à enseigner, à être pédagogue, et je crois que les élèves de L1 doivent, s'ils ne l'ont pas déjà fait, à nous apprendre à mieux enseigner, à repenser nos pratiques pédagogiques. Pour ma part, hein, voilà.
Nous remercions Audrey Fogel et Ferruja Alouache pour des échanges passionnants sur 10 ans de travail et d'engagement. Nous remercions également les enseignantes et les élèves du lycée professionnel Frédéric Bartholdi qui nous ont accueillis chaleureusement et nous ont montré leurs incroyables réalisations. Cette émission a été réalisée par le service communication sur une idée d'Anne Chalard-Philodeau. Les enregistrements de la rencontre ont été réalisés par Olivier Burguin à Studio 8.